Édouard avait acheté un gramophone d'excellente qualité et pas mal de disques, dont quelques marches militaires. Malgré sa jambe raide, il adorait défiler dans l'appartement au pas cadencé, en compagnie de Louise, et en portant un masque de soldat caricatural franchement ridicule. Il y avait aussi de l'opéra, auquel Albert ne comprenait rien, et le concerto pour clarinette de Mozart, qui, certains jours, passait et repassait sans arrêt, comme si le disque était rayé. Édouard portait toujours les mêmes vêtements, un roulement de deux pantalons, de deux tricots et deux chandails qu'Albert amenait à laver une semaine sur deux. Albert, lui, avait acheté des chaussures, et un costume, et deux chemises, rien que de la qualité, de la vraie cette fois. Il avait été rudement bien inspiré parce que c'est à ce moment-là qu'il avait rencontré Pauline. Depuis, les choses étaient infiniment plus compliquées. Avec cette femme, comme avec la banque, il avait suffi d'un mensonge de départ pour se trouver condamné à une effroyable course en avant, comme avec les monuments. Mais qu'avait-il donc fait au bon Dieu pour être sans cesse dans l'obligation de cavaler devant une bête fauve menaçant de le dévorer? C'est pour cela qu'il avait dit à Édouard que le masque de lion, en fait un animal mythologique, mais Édouard ne le reprenait pas sur ces détails-là, était très beau, certes magnifique même, mais lui donnait des cauchemars et qu'il apprécierait de le voir remisé une bonne fois pour toutes. Édouard s'était exécuté. Et donc, Pauline. Une histoire de décision du conseil d'administration de la banque. On savait que, depuis quelque temps, M. Péricourt n'était plus trop à ses affaires. On l'avait moins vu, et ceux qui le croisaient constataient qu'il avait beaucoup vieilli. Peut-être la conséquence du mariage de sa fille, ou les soucis, les responsabilités, personne n'aurait songé à la mort de son fils. Le lendemain du jour où il avait appris son décès, il avait participé à une importante assemblée générale d'actionnaires, avec sa sûreté coutumière, tout le monde l'avait trouvé très courageux de poursuivre sa tâche malgré ses malheurs. Mais le temps avait passé. M. Péricourt n'était plus ce qu'il avait été. La semaine précédente, justement, il s'était soudainement excusé. « Continuez sans moi. » Il n'y avait plus de décision essentielle à prendre, mais tout de même, le président n'avait pas donné l'habitude de déserter. Il aurait plutôt eu tendance à vouloir tout décider seul, à n'admettre les débats que sur des sujets mineurs sur lesquels, de toute manière, il avait déjà tranché. Et donc, vers 15 heures, il était parti. On avait su un peu plus tard qu'il n'était pas rentré chez lui, certains évoquant une visite chez son médecin, d'autres la présence d'une femme là-dessous. Seul le gardien du cimetière, qui n'était pas convié à ces conversations, aurait pu dire où il se trouvait réellement. Vers 16 heures, comme M. Péricourt devait absolument signer le procès-verbal de la réunion afin que ses ordres soient ratifiés, et le plus rapidement possible mis en application, il n'aimait pas que ça traîne, on décida d'envoyer le document chez lui. Et on se souvint d'Albert Maillard. Personne à la banque ne savait le lien existant entre le patron et cet employé, on était seulement certain que le second devait sa place au premier. Là aussi, les rumeurs les plus folles avaient couru, mais Albert, avec ses rougeurs intempestives, ses craintes de tout, sa nervosité, sa manière de sursauter au premier bruit, avait découragé toutes les hypothèses. Le directeur général se serait volontiers rendu en personne au domicile du président Péricourt, mais jugeant que se livrer à une tâche subalterne de coursier était peu conforme à sa position, il fit envoyer Albert. Dès qu'il reçut l'ordre, Albert se mit à trembler. Ce garçon était incompréhensible. On dut le presser, lui tendre son manteau, le pousser vers la sortie. Il semblait si perturbé qu'on se demanda s'il n'allait pas perdre le document quelque part sur la route. On appela un taxi, on paya l'aller et le retour. On recommanda discrètement au chauffeur d'avoir l'œil sur lui. « Arrêtez-moi !» hurla Albert lorsqu'ils atteignirent le parc Monceau. « Ben, c'est pas encore là !» risqua le chauffeur. On lui avait confié une mission délicate et et voilà que les ennuis commençaient. « Tant pis !» cria Albert. « Arrêtez-vous !» Quand un client devient furieux, le mieux est de le faire descendre. Albert descendit. Attendre qu'il s'éloigne de quelques pas, le chauffeur vit Albert marcher d'un pas chancelant dans le sens opposé à l'adresse où il était censé se rendre, et quand on vous a réglé d'avance, vous démarrez le plus vite possible, légitime défense. Albert ne s'en rendit pas compte, hanté qu'il était depuis son départ de la banque par l'idée de se trouver nez à nez avec Pradel. Il imaginait déjà la scène, le capitaine le tenant d'une poigne ferme à l'épaule, se penchant et lui demandant « Tiens donc, soldat Maillard, vous rendez une petite visite à votre bon capitaine d'Aulnay Pradel comme c'est gentil, venez un peu par ici. » Et disant cela, il l'entraînait dans un couloir qui devenait une cave. Il fallait s'expliquer, Pradel le giflait, puis l'attachait, le torturait. Et quand Albert était contraint de lui avouer qu'il vivait avec Édouard Péricourt, qu'il avait volé de l'argent à la banque, que tous deux s'étaient lancés dans une escroquerie sans nom, Pradel partait d'un grand rire, levait les yeux au ciel, appelait le courroux des dieux qui aussitôt envoyait sur Albert une quantité de terre égale à celle déplacée par un obus de 95 quand vous êtes déjà au fond du trou et que vous tenez serré contre vous le masque d'une tête de cheval avec laquelle vous vous apprêtez à vous présenter au paradis des impuissants. Albert, comme la première fois, tourna, hésita, revint sur ses pas, tétanisé par le risque de rencontrer le capitaine Pradel, celui d'avoir à s'entretenir avec M. Péricourt, à qui il volait de l'argent, celui de se trouver face à la sœur d'Édouard à qui il pouvait révéler que son frère était encore en vie. Il chercha comment faire porter à M. Péricourt le document qu'il serrait contre lui avec une force de damné, sans avoir à rentrer dans la maison. Trouver quelqu'un pour le remplacer, voilà ce qu'il fallait. Il regretta que le chauffeur fût parti, il aurait pu se garer deux rues plus loin, faire la commission et revenir, Albert aurait gardé le taxi. C'est à ce moment-là que Pauline apparut. Albert se tenait sur le trottoir d'en face, l'épaule rasant le mur, il la vit, et avant d'avoir compris que la jeune femme était la solution de son problème, elle devint l'incarnation d'un autre souci. Il avait bien souvent pensé à elle, la jolie petite bonne qui avait tant ri de le voir avec ses chaussures idiotes. Il se jeta aussitôt dans la gueule du loup. Elle était pressée, peut-être en retard pour prendre son service. Tout en marchant, elle avait déjà entrouvert son manteau, laissant apercevoir une robe bleu clair à mi-mollet et une ceinture ample à taille basse. Elle portait un foulard assorti. Elle grimpa rapidement les quelques marches du perron et disparut. Quelques minutes plus tard, Albert sonnait à la porte. Elle ouvrit, le reconnut. Il bomba le torse parce que, depuis leur première rencontre, il avait acheté de nouvelles chaussures. Et, en jeune femme sagace, elle remarqua aussi qu'il possédait un nouveau manteau, une belle chemise, une cravate de qualité et toujours ce visage si drôle qu'on aurait dit qu'il venait de faire sous lui. Allez savoir ce qui se passa dans sa tête, elle se mit à rire. La scène se reproduisait presque identique à 6 mois de distance. Mais les choses ne pouvaient être les mêmes. Ils restèrent l'un en face de l'autre comme si c'était elle qu'il était venu voir, ce qui, d'une certaine manière, était vrai. Un silence s'installa. Dieu que cette petite Pauline était jolie, l'air de l'amour même. 22, 23 ans, un sourire à vous hérissait le poil, des lèvres satinées découvrant des dents magnifiques, admirablement alignées, et ses yeux. Cette coiffure très courte comme on faisait maintenant, qui mettait en valeur la nuque, la gorge. Tiens, à propos de gorge, elle portait un tablier et un chemisier blanc. Pas difficile d'imaginer les seins qu'elle avait, une brune. Depuis Cécile, il n'avait jamais pensé à une brune, il n'avait même jamais pensé à rien. Pauline regarda le dossier qu'il pétrissait entre ses mains. Albert se souvint de la raison de sa visite, mais aussi de la crainte qu'il avait des mauvaises rencontres. Il était entré, l'urgent était maintenant de ressortir, vite. « Je viens de la banque, » dit-il bêtement. Elle ouvrit la bouche en rond. Sans le vouloir, il avait produit son petit effet, la banque. Pensez donc, c'est pour le président Péricourt, ajouta-t-il, et, comme il avait perçu qu'il prenait de l'importance, il ne put s'empêcher de préciser « je dois le remettre en main propre ». Le président Péricourt ne se trouvait pas chez lui, la jeune fille lui proposa de l'attendre, elle ouvrit la porte du salon, Albert retomba sur terre, rester là était une folie, déjà être entré. « Non, 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 merci !» Il tendit le document, tous deux s'aperçurent qu'il était mouillé de transpiration, Albert voulut le sécher contre sa manche, le dossier tomba à terre, toutes les pages en désordre, les voici aussitôt à quatre pattes, enfin, vous imaginez la scène. C'est ainsi qu'il était entré dans la vie de Pauline. 25 ans, on n'aurait pas dit. Pas vierge, mais vertueuse. Elle avait perdu un fiancé en 17 et personne depuis, assurait-elle. Pauline mentait joliment. Avec Albert, ils se touchèrent très vite, mais elle ne voulait pas aller plus loin, car pour elle, c'était du sérieux. Albert lui plaisait avec son visage naïf, émouvant. Il provoquait chez elle des envies maternantes et disposait d'une jolie situation comptable dans une banque. Comme il connaissait les patrons, une belle carrière l'attendait sans doute. Elle ne savait pas combien il gagnait, mais ce devait être confortable parce qu'il l'invita tout de suite dans de bons restaurants, pas luxueux, mais avec une cuisine de qualité et une clientèle bourgeoise. Il prenait des taxis, au moins pour la reconduire. Il l'emmena aussi au théâtre, sans lui dire qu'il y mettait les pieds pour la première fois. Proposa l'opéra en demandant conseil à Édouard, mais Pauline préférait le music-hall. L'argent d'Albert commençait à filer. Son salaire était loin de suffire et il avait déjà pas mal puisé dans sa part du maigre butin. Aussi, maintenant qu'on voyait que les fonds n'arriveraient plus guère, s'interrogeait-il, comment sortir du piège dans lequel pour le coup il s'était jeté tout seul sans l'aide de personne? Pour continuer de courtiser Pauline, il se demanda s'il ne devrait pas emprunter de nouveau de l'argent à la banque de M. Péricourt.